Radio Okapi. Le journal, grâce à Mzati Massandi.
Plusieurs défis et urgences sont sur la table de la nouvelle première ministre de la RDC et devront obligatoirement être exécutés conformément à la Constitution. C'est notamment la résolution des conflits dans l'est de la RDC et l'amélioration du social des Congolais. Michel Kifinda est au rendez-vous à l'ouverture de ce journal pour plus d'explications sur ce qu'est dit la Constitution par rapport aux priorités auxquelles le prochain gouvernement devra se focaliser. À Ituri, plus de 70 écoles primaires et secondaires de la sous-division de l'EPST Irumu 1 fonctionnent péniblement depuis 2 ans à cause de l'insécurité qui sévit dans cette entité. Révélation faite à Radio Okapi ce mercredi par le responsable de cette entité éducative. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité à Kinshasa est l'invité de ce journal. Denis Tukuzu explique le problème des délestages observés dans presque toutes les communes de la capitale congolaise depuis quelques semaines. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Quelles sont les priorités auxquelles le prochain gouvernement devra s'attaquer une fois investi? Plusieurs défis et urgences sont sur le bureau de la nouvelle première ministre et devront obligatoirement être exécutés conformément à la Constitution. Outre la résolution des conflits dans l'est de la RDC et garantir le droit à la paix et à la sécurité des Congolais, le prochain gouvernement a l'obligation constitutionnelle de garantir les droits économiques, sociaux et collectifs à la population. Il doit surtout veiller à la redistribution équitable des richesses du pays pour ne pas tomber dans l'infraction des hautes trahisons. N'est-ce pas, Michel Kifindangoy?
En analysant les articles 34 à 59 de la Constitution, il s'avère que l'amélioration des conditions de vie des Congolais est une obligation non négociable pour le gouvernement et la non-application de certaines dispositions expose les gouvernants à l'infraction des hautes trahisons. Parmi les droits inaliénables, l'article 36 consacre la sacralité du travail que l'État a l'obligation de garantir avec une rémunération équitable. Les articles 42 à 47 garantissent les droits à l'éducation et à la santé, respectés en partie par la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement et de la maternité. Les droits à un logement décent, les droits d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont aussi garantis par l'article 48 de la Constitution. Signalons pour finir que les articles 56 à 59 obligent le gouvernement à redistribuer de façon équitable les richesses du pays. En clair, l'enrichissement rapide et la jouissance inéquitable des ressources du pays par les seuls décideurs, bien que couverts par la loi des finances, est érigé en infraction de pillage et de haute trahison en vertu de l'article 57 de la Constitution.
Michel Kifindangoy, au sujet toujours de la nomination de la première ministre, l'ancien ministre du Plan et actuellement président du groupe parlementaire d'Ensemble pour la République pense que la réussite de Judith Suminwa dépendra de l'environnement dans lequel elle va évoluer. Pour cela, il lui faudra un leadership fort et il devra avoir les coudées franches dans ses actions. On écoute Christian Mwando au micro de Jean Gandou.
Madame Judith Toluka Suminwa, la première ministre nommée est un bon choix sur le plan technique. C'est quelqu'un que je connais, qui a des compétences techniques nécessaires. Mais je doute fort qu'avec l'environnement de prédation dans lequel elle sera obligée d'évoluer, si en plus on l'entoure de tous ces caïmans politiques, qu'elle n'a pas les coudées franches, je doute fort qu'elle puisse faire quelque chose. Elle est nommée dans des circonstances très difficiles. Il lui faut beaucoup de personnalité, il lui faut une grande implication politique, il faut une main de fer pour tenir particulièrement tous ceux qui s'appellent des poids lourds politiques, qui, si on les met encore dans son gouvernement, vont lui poser la tâche difficile. Est-ce qu'elle aura la capacité, est-ce qu'elle aura l'autorité nécessaire pour pouvoir sanctionner tous les détourneurs, tous ceux qui s'écartent de la ligne de la bonne gouvernance? Là, je dis simplement, wait and see, elle sera jugée à la tâche.
Dans l'actualité, sachez aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert solennellement ce mercredi les assises sur la matinée de l'emploi. Selon l'Office national de l'emploi, ONEM, qui organise cette activité, cet événement entre dans le cadre de la redynamisation du service public d'emploi en vue de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi en RDC. L'ONEM s'engage fermement avec les acteurs du marché de l'emploi à contribuer à la réalisation de l'objectif ambitieux de créer 6,4 millions d'emplois en République démocratique du Congo. On en vient maintenant à Nitouri, où 79 écoles primaires et secondaires de la sous-division de l'EPST Irumu 1 éprouvent depuis 2 ans d'énormes difficultés pour fonctionner. C'est la conséquence des exactions des rebelles des ADF dans plusieurs entités de la chefferie de Wallace et Vankoutou. Ces chiffres ont été rendus publics ce mercredi à Radio Okapi par le responsable de cette entité éducative. C'est à l'issue d'une enquête menée la semaine dernière par une équipe d'inspecteurs sur l'axe Komandaluna. La société civile demande aux autorités d'accélérer les opérations Soudja contre ces rebelles. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Parmi ces écoles, il y a 64 du primaire, 14 du secondaire et une de la maternelle. La plupart d'entre elles relocalisées notamment à Kassana dans la région d'Eringeti au nord Kivu et d'autres dans les centres commerciaux de Komanda à 75 km de la ville de Bunia dans le territoire d'Irumu fonctionnent dans des conditions difficiles. Selon le président de la sous-division de l'EPST Irumu 1, au moins 70 écoles ne fonctionnent plus sur l'axe Komanda-Luna sur la RN4. D'autres écoles n'existaient plus que des noms. Elles ont été vandalisées, pillées ou soit incendiées par des groupes armés. Conséquence, plus de 29 679 élèves, dont 11 694 filles, sont affectés par cette situation, selon les résultats des inspecteurs dans cette zone. D'après Pelerin Loki, chef des divisions de l'EPST Irumu 1, certaines écoles qui étaient en déplacement à Komanda commencent à regagner à Bamande et Mungamba grâce à la relative accalmie qui s'observe. Pelerin Loki.
Tout était pillé, les enseignants ont perdu le manuel et le programme national, tout ça. Beaucoup de nos écoles souffrent. Les pupitres servent de bois de chauffage pour notre population là-bas.
La société civile locale exhorte les militaires des FARDC et armées ougandaises de poursuivre ces opérations pour les retours effectifs des populations dans leurs localités respectives. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Non loin de là, au nord Kivu, le Parlement d'enfants de Butembo Lubero alerte sur la souffrance des enfants déplacés dans plusieurs villages et localités du territoire de Lubero. Ils ont fui avec leurs familles les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires voisins de Rutshuru. Le président de cette structure affirme que beaucoup de ces enfants manquent de tout, notamment à manger. Certains sont exploités sexuellement dans des maisons de tolérance pour subvenir à leurs besoins. Joël Ngunza, président du Parlement d'enfants de Butembo Lubero, explique au téléphone de Martial Papi Mukeba.
La guerre étant à la base des déplacements des familles, les enfants du territoire de Lubero actuellement, ils sont en situation de faim. Ils n'ont rien pour manger et ils n'ont pas de lieu où ils peuvent se loger. Depuis que le taux des déplacements des familles a augmenté, plus de 10 enfants sont morts à cause du faim dans le territoire de Lubero. Et on s'est dit pourquoi cette non-assistance aux enfants. Toujours dans le territoire de Lubero actuellement, les enfants sont exploités sexuellement. La majorité des maisons de tolérance, ce sont les enfants qui remplissent ces maisons de tolérance. Presque partout dans les territoires de Lubero, vous ne pouvez pas trouver un village sans au moins 3 maisons de tolérance. Et là, ce sont les enfants qui sont exploités. Les enfants de 16 ans, de 15 ans et de 17 ans y sont. Et malheureusement, actuellement, certaines violations graves des droits des enfants commencent à devenir comme normales.
Pendant ce temps, environ 35 millions d'enfants africains, dont des Congolais, souffrent du manque de prise en charge parentale et nécessitent l'intervention immédiate des services de prise en charge. C'est ce qui révèle une étude menée dans 43 pays africains, dont la RDC, réalisée par les comités africains des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant en partenariat avec le SOS Village d'Enfants et d'autres organisations. Cette étude dévoile les chiffres alarmants sur la vulnérabilité de ces enfants. Selon la même source, ces derniers sont exposés à diverses formes d'abus, notamment sexuels, au travail forcé, à la traite d'êtres humains et bien d'autres mots. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce mardi ici à Kinshasa par SOS Village d'Enfants. Alphonse Poissa pour plus de détails.
Selon le directeur national de SOS Village d'Enfants en RDC, cette étude réalisée entre 2021 et 2022 et qui a mobilisé divers acteurs étatiques et de la société civile à travers la RDC souligne l'ampleur du problème et la nécessité d'une action concertée. D'après Armand Modestiofo, son organisation souhaite sensibiliser les gouvernements, les partenaires du secteur de la protection de l'enfance et les grands publics sur l'urgence d'agir vite.
Il faut tout simplement que les acteurs de la prise en charge continuent de soutenir les actions du gouvernement dans ce sens, mais aussi que au sein de nos familles, que nous mettions les préoccupations qui concernent la prise en charge des enfants au cœur de nos actions en tant que parents plus responsables. C'est vrai que parfois on a la pression sociale, on a la pression économique. On constate malheureusement qu'il y a des situations de pauvreté qui amènent certaines familles à délaisser les enfants. Il faut cette prise de conscience parce que l'enfance, c'est l'avenir. On ne peut pas, pour X ou Y raison, laisser l'enfant en pâture comme ça, subir tout genre d'abus qu'on peut imaginer.
Le directeur national de SOS Village d'enfants en RDC affirme que son organisation vient notamment en appui à 288 enfants à travers son programme de renforcement de la famille. Il ajoute que 469 enfants sont pris en charge au sein des SOS Village d'enfants à Kinshasa, Bukavu et à Uvira.
Autre aspect de l'actualité au Nord Kivu, 9 policiers du groupe mobile d'intervention GEMI sont jugés en flagrance depuis mardi par les tribunaux militaires des garnisons de Beni. Ils sont poursuivis pour violence ayant causé la mort d'un détenu dans les cachots de cette unité de la police. Radio Kapi Beni, Martial Papi Mukeba.
Les 9 policiers sont accusés par le ministère public d'avoir torturé à mort un homme le 1er avril dans les cachots de la police du groupe mobile d'intervention de Beni. La victime venait d'être interpellée quelques heures plus tôt pour des faits de consommation de stupéfiants. Au cours de l'audience de ce mardi, 7 policiers ont contesté les faits mis à leur charge. Mais dans sa déposition devant le tribunal, le 8e policier a déclaré avoir aperçu deux de ses collègues donner des coups de poing et des coups de crosse à la victime au moment de son interpellation. Rappelons que le 6 octobre 2023, l'auditeur militaire des garnisons de Beni avait ordonné la fermeture du cachot de la police locale du groupe mobile d'intervention à la suite des multiples violation des droits humains des détenus constatés dans ces lieux de détention. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Dans la même région de Beni, au lendemain de la nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans la commune rurale de Mangina, la population s'est réveillée sous le choc ce matin. Le bilan de cette attaque s'élève à 10 civils tués, 15 maisons de commerce, une partie du centre de santé local et quelques habitations incendiées par les assaillants. C'est ce que nous dit Marc Marofimbo.
Entre colère et tristesse, la population de Mangina s'est réveillée ce matin sous le choc au lendemain de l'attaque du quartier Mangodomu par les rebelles des ETF. Le centre de santé de réveillance de Mangina attaqué et vidé de tous les malades. La société civile dit ne pas comprendre comment les assaillants ont opéré avec autant de facilité. Son président Mongozi Kakule Vunyati plaide pour le renforcement des effectifs de l'armée dans la zone pour protéger la population.
On était en train de recommander au gouvernement de doter nos forces d'une jeep pour faciliter la mobilité pour atteindre l'ennemi. Que les forces armées poursuivent l'ennemi jusqu'à ce dernier retranchement pour que la population soit épargnée de ces dangers qui met mal à l'aise cette population qui ne vit que de l'agriculture.
L'administrateur du territoire de Beni arrivé ce matin à Mangina rassure la population de la détermination des FARDC à neutraliser les EDF. Colonel Charles Omeonga.
Nous sommes déterminés pour protéger cette population et leurs biens. Vous avez vu comment les militaires se mouillent leur tenue à se déployer dans la brousse pour traquer cet ennemi et présenter à cette population de quoi ils sont capables de le faire. Si on est en train de gagner du terrain, c'est grâce aussi à cette population. C'est grâce à leur collaboration.
Signalons que l'armée vient de renforcer son dispositif dans la commune rurale de Mangina. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Restons en Nord Kivu pour vous dire en plus bref que des tirs d'artillerie attribués à l'armée congolaise et aux rebelles du M23 ont été entendus sur l'axe Kanyabayonga-Ruindi dans la matinée de ce mercredi. C'est au nord du territoire de Rutshuru dans le parc national de Virunga. Des sources locales rapportent qu'une accalmie est observée sur plusieurs lignes de combat dans les territoires de Rutshuru et Masisi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, au moins 73 personnes ont été tuées à Taori, dans l'est du pays. L'attaque a eu lieu dimanche 31 mars et a été revendiquée par les SNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Parmi les victimes, des dizaines de civils, mais aussi des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé par décret Ousmane Sonko à la primature quelques heures après son investiture à la tête du pays mardi 2 avril. Il s'agit de la première mesure de sa présidence.
L'invité.
Aggravation du phénomène délestage dans presque toutes les communes de la capitale congolaise depuis quelques semaines. Les Kinois s'en plaignent. La Société nationale d'électricité parle d'un arrêt volontaire de certaines de ses turbines à Inga 2 pour des travaux de modernisation. Denis Tukuzu, son directeur provincial à Kinshasa, est l'invité de cette édition du journal. Il promet un retour à la normale pour très bientôt dans cet entretien avec Babel Mpongo Masimango.
Monsieur le directeur, bonjour.
Bonjour, madame.
Les habitants de Kinshasa se plaignent. Là où l'électricité était stable, ces jours-ci, c'est compliqué. Là où il y en avait un tout petit peu, ils sont carrément dans le noir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la SNEL?
Madame, hors mis déjà ce que nous appelons les déficits liés au niveau de la production, la SNEL est dans un grand chantier de moderniser ses groupes réhabilités à Inga 2. Si les 6 machines sont réhabilitées à Inga 2, on doit moderniser 4 machines. Et les travaux de modernisation là demandent un arrêt d'une machine qui prend à peu près 10 jours pour la moderniser. Et nous sommes pratiquement à plus de 20 jours de travaux. Ce qui fait que l'immobilisation d'une machine creuse encore un peu les déficits. Donc les délestages quittent les premiers seuils, qui est un peu tolérable par rapport au deuxième. Et la gêne devient importante. La deuxième cause est que la ligne de secours de Zongo, qui devrait suppléer tant soit peu au déficit créé par l'arrêt volontaire du groupe à Inga 2, est maintenant menacée par toutes les machines de concassage qui sont éparpillés dans le territoire de Kasangoulou, qui fait en sorte qu'à chaque explosion de grosses pierres, nos conducteurs de lignes sont effilochés et puis sont pratiquement coupés. Ce qui entraîne aussi encore un déficit du côté Zongo. Et le dérèglement climatique de ces derniers jours, parce que l'électricité, lorsqu'il passe dans un conducteur ou dans un matériel, il s'accompagne toujours d'un dégagement de la chaleur, ce qu'on appelle effet Joule. Mais maintenant, cet échauffement-là dégagé par le passage du courant est confronté maintenant au dérèglement climatique, ce qui fait que la chaleur de ces derniers jours, plus la chaleur dégagée par nos équipements, fait en sorte que nos appareils de protection thermique puissent de plus en plus fonctionner. Et quand ça fonctionne, il faut un petit temps de refroidissement pour réenclencher. Et c'est plusieurs perturbations des délestages. Voici les 3 principales causes de cette perturbation. Elle est juste passagère et je crois que avec la saison qui approche, donc le climat va être encore équilibré. Nous rassurons à notre clientèle que la situation va s'améliorer.
Vous parlez de la saison sèche, les choses peuvent s'améliorer, mais du côté de la SNEL, on sait toujours que non, pendant la saison sèche, on dit que non, il y a étiage, on ne sait pas produire assez. Et puis, pendant la saison de pluie, on se disait que bon, ce serait un peu mieux, vous nous renvoyez encore vers la saison sèche.
Ça, c'est vrai que ce qui est bon à travers le monde, le climat est déréglé. Nous savons que la saison de pluie dernière nous a amené beaucoup de choses. C'était des inondations. Nous nous basons beaucoup plus sur nos machines et comme on va les moderniser et suivi de grands travaux d'entretien, la situation pourra s'améliorer par rapport à ce que nous sommes en train de vivre.
S'améliorer, c'est-à-dire nous quitterons le délestage du stade 2 pour revenir au stade 1 habituel.
Exactement, madame. Nous s'améliorer, c'est-à-dire que nous allons quitter le délestage du stade 2 au stade premier, où ça fait la jeune est de plus en plus moins que ce que nous vivons maintenant.
Mais quand vous parlez de Inga 2, des travaux qui sont en train de s'effectuer là-bas, si vous terminez ces travaux-là, est-ce que si on combine Inga 2, tout ce qui est produit au niveau de Zongo, plus la ligne, la nouvelle ligne de Mboudi, hein, c'est ça? Est-ce qu'on peut espérer aussi la fin du délestage?
Bon, la fin des délestages, je serais un menteur pour vous dire qu'il va être immédiat parce que la demande est toujours croissante. Quand vous parcourez la ville de Kinshasa, tout monte en hauteur. Il y a de phénomènes de morcellement des parcelles, il y a de nouvelles constructions, il y a la modernisation en hauteur et il y a la quantité de la population qui ne fait que monter.
Et les industries
qui viennent s'installer avec le boom industriel, le boom dans l'immobilier et l'économie qui semble déjà être décollée et tout le monde espère et croit en Congo. Au Congo, c'est que la demande est forte. Alors, la fin des délestages viendra si seulement si nous construisons de nouvelles infrastructures. Parce que ça fait 3-4 décennies qu'on n'a pas assez investi dans les nouvelles infrastructures. C'est-à-dire qu'il faut construire de nouvelles centrales électriques.
Merci, monsieur le directeur.
C'est moi qui vous remercie.
Denis Tukuzu, le directeur provincial de la SNEL à Kinshasa, était interrogé par Babel Mpongo Massimango. Fidèles auditrices et auditeurs de la fréquence de la paix, par ici nous mettons un terme à ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda sous la supervision éditoriale d'Alain Rungmouchins. Jean-Noël Mokondo-Yogo a assuré la mise en onde. Vous pouvez réécouter ce radio-journal sur www.radiocapi.net. 18h20 à Kinshasa. Merci.